France Culture.
Le journal est signé Aurore Richard. Bonsoir Aurore.
Bonsoir à toutes et tous. Sanctionner des demandeurs d'emploi qui ne respecteraient pas leurs obligations, c'est ce que prévoit un décret entré en vigueur en mai dernier et c'est ce que dénoncent une quinzaine d'associations et syndicats qui ont décidé d'attaquer l'État en justice. On en parle dans un instant avec Catherine Pétillon. Quel avenir pour les ministres, les républicains du gouvernement Le Cornu au sein de leur parti? Le bureau politique LR se réunit en ce moment pour statuer. Une bonne nouvelle pour l'industrie française. Alstom vient de décrocher un contrat avec Eurostar. Un contrat à 2 milliards d'euros. On y revient dans le journal avec Hakim Kasmi. Et puis en Ukraine, une lettre d'intention entre Volodymyr Zelensky et le premier ministre suédois pour l'achat de 150 avions de chasse et ce, à la veille d'un Conseil européen qui vise à se mettre d'accord sur un accord financier pérenne avec Kiev. L'examen en commission des projets de budget de l'État et de la sécurité sociale se termine ce soir avant d'arriver vendredi à l'Assemblée où les débats s'annoncent déjà très vifs. Les économies voulues par le gouvernement et notamment le gel de l'ensemble des prestations sociales ne passent pas. C'est dans ce contexte qu'une quinzaine d'associations et syndicats attaquent l'État et sa politique envers les plus précaires. Le Secours catholique, Emmaüs, la CGT ou encore la FSU ont déposé un recours au Conseil d'État. Il réclame l'abrogation d'un décret entré en vigueur depuis mai dernier. Il permet de sanctionner les demandeurs d'emploi qui ne respecteraient pas leurs obligations. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active peuvent ainsi se retrouver privés d'un revenu minimum. Catherine Pétillon.
En rendant possible la suspension totale ou partielle du revenu de solidarité active, le RSA, le décret est d'abord le symptôme d'une suspicion de principe envers les personnes privées d'emploi, dénoncent les associations. Une manière, disent-elles, de remplacer par de la contrainte l'accompagnement qui serait nécessaire. Toutes insistent sur la fragilité des publics concernés. Conséquence, les obligations nouvelles sont pour beaucoup intenables. Et surtout, la privation du RSA, 646 euros pour une personne seule, a des effets majeurs et pas seulement monétaires. Isabelle Dorès est la vice-présidente d'ATD Carmonde.
Les personnes au RSA sont souvent des personnes qui sont en situation de pauvreté. Et la pauvreté, c'est vraiment avoir plein d'insécurité. Donc c'est souvent qu'on a eu des problèmes de logement, des problèmes avec le travail, des problèmes quelquefois de pouvoir continuer à vivre en famille, parce que les conditions de vie sont tellement difficiles qu'on est menacé quelquefois de placement d'enfants. Voilà, on a souvent fait peu d'études. On a souvent aussi une situation de la santé qui se dégrade beaucoup parce que quand on est tout le temps pris dans la tête par les préoccupations de la journée, etc., du coup on est en mauvaise santé mentale, physique. Et l'État devrait vraiment en fait apporter de la sécurité à ces personnes avant tout, sécuriser pour qu'elles puissent rebondir, pour qu'elles puissent reprendre confiance en elles, reprendre confiance aussi dans les institutions. Le décret fait exactement l'inverse. Comment ces personnes vont se relever? Comment elles vont pouvoir reprendre un jour confiance dans la société?
Deux phénomènes inquiètent particulièrement ceux qui accompagnent les plus précaires. L'aggravation du non-recours au droit et le manque de visibilité sur ce que deviennent les personnes exclues du revenu minimum que représente le RSA. Elles sont exposées au risque de s'éloigner un peu plus encore de l'emploi et surtout de sombrer dans la très grande pauvreté.
L'assurance chômage qui prévoit d'ailleurs une dégradation de son déficit en 2026. Une forte dégradation à 1,3 milliard d'euros contre 100 millions d'euros cette année. L'UNEDIC compte ainsi demander au gouvernement une révision du prélèvement de l'État sur cette année 2026. Pour expliquer ses prévisions, l'organisme évoque une conjoncture économique dégradée et un contexte politique incertain. L'assurance chômage indique n'avoir pas d'autre choix que de recourir à de nouveaux emprunts à des taux particulièrement élevés, ce qui mécaniquement augmente la charge de la dette. Le budget Le Cornu, qui sera donc débattu dans l'hémicycle à partir de vendredi. Un texte profondément amendé par les oppositions. Les insoumis, qui eux espéraient la censure de Sébastien Le Cornu, ont déjà annoncé qu'ils n'attendaient absolument rien de ces débats budgétaires. Adrien Toffolé, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
À tel point que les insoumis ont présenté ce midi à l'Assemblée nationale un budget alternatif.
Oui, une réponse aux deux quinquennats d'Emmanuel Macron à sa politique de l'offre, à sa promesse de ruissellement, responsable selon eux du creusement du déficit budgétaire. À tout cela, les insoumis y opposent une vision de justice fiscale avec une relance par le pouvoir d'achat pour répondre aux enjeux écologiques et de justice sociale. Aurélie Trouvé, députée LFI de Seine-Saint-Denis.
L'argent, il se trouve qu'il s'est concentré essentiellement
dans le portefeuille des ultra-riches. Et puis nous allons le chercher aussi dans les super-profits des multinationales, parce que ces super-profits se sont massivement développés. Donc rien qu'avec deux mesures, la taxe Zuckmann sur les 1800 plus grandes fortunes de France, plus l'impôt sur la fortune renforcé, rien que ça, c'est 35 milliards d'euros supplémentaires qui rentrent dans les caisses de l'État.
Ajoutez à cela une hausse de l'impôt sur les sociétés, des grandes entreprises, des coupes dans les niches fiscales à disposition des grandes fortunes. C'est au total 180 milliards de nouvelles recettes qui sont attendues. Pas vraiment de surprise toutefois dans ce contre-budget insoumis, travaillé de longue date et dont la présentation coïncide non sans hasard avec les débats actuels à l'Assemblée, lors desquels les socialistes peinent à décrocher des victoires. Pas de taxes Zuckmann, ni d'ISF climatique ou de hausse des droits de succession. Les socialistes font fausse route en tentant de l'améliorer, insiste l'insoumise.
Nous n'avons pas été élus pour sauver les restes de la Macronie. Nous n'avons pas été élus pour faire le budget le moins mauvais possible à partir du budget macroniste. Ça n'est pas ce pourquoi nous avons été élus. Nous avons été élus pour rompre avec la logique macroniste, ce qui est impossible. Impossible avec ce budget de départ.
Persuadés de voir arriver la censure à l'issue des discussions budgétaires, les insoumis présentent en réalité un budget alternatif, prêt à se transformer en programme électoral.
Et c'est dans ce contexte politico-budgétaire que le bureau politique des Républicains se réunit en ce moment afin de statuer sur les 6 ministres LR du gouvernement Lecornu. Ils sont restés ou ont rejoint le gouvernement malgré l'interdiction édictée par le parti. Il s'agit d'Annie Genevard à l'agriculture, de Rachida Dati à la culture, Philippe Tabarot au transport, Vincent Jeanbrun au logement, Sébastien Martin à l'industrie et enfin Nicolas Forissier au commerce extérieur. Bonsoir Nicolas Ballu.
Bonsoir.
Le président du parti Bruno Retailleau les a menacés d'une exclusion. C'est donc une possibilité, mais sur ce sujet, les principaux responsables restent divisés.
Oui, LR et les exclusions, c'est une longue histoire. Les séparations tournent souvent au psychodrame, mais elles ne sont pas toujours définitives. Ce matin, les 6 ministres LR du gouvernement Lecornu ont confirmé dans un communiqué qu'ils ne faisaient plus partie des instances de LR, ce qu'avait déjà décidé le président Bruno Retailleau, lui-même quelques minutes à peine après leur nomination. La responsabilité, la nécessité de ne pas faire plonger le pays dans l'inconnu, c'était la défense principale des ministres en rentrant au gouvernement. Un gouvernement otage des socialistes. Selon Bruno Retailleau, les ministres étaient exclus jusqu'à ce que le bureau politique statue. Et c'est ce soir. Exclusion, affirmait le patron des LR. Au moins sanctions, nuançait-il hier, interrogé par le journal Le Figaro. Bruno Retailleau doit peut-être restaurer son autorité, et c'est aussi cela qui est en jeu. LR a étalé ses divisions, et son patron en est en grande partie responsable. Mais les avis sont partagés sur la sanction. Ça suffit, affirme le chef des députés à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez, qui a laissé entrer ses députés au gouvernement. On ne va pas exclure tout le monde, dit-il. Autre souci, les ministres sont pour certains des personnalités plutôt importantes chez LR. Alors, la solution pourrait être celle proposée par le président du Sénat, Gérard Larcher. Suspendre plutôt qu'exclure, attendre le vote du budget qui obligera les uns et les autres à se positionner concrètement sur les propositions du parti et du gouvernement et de voir à quoi ressemble ce budget in fine. En d'autres termes, laisser du temps au temps, éloigner certaines questions qui fâchent, comme le soutien de LR à Rachida Dati pour les élections municipales de Paris.
Merci Nicolas Ballu pour ces explications. La ministre de la Culture, justement, est formelle devant les sénateurs cet après-midi. Elle réaffirme que les dispositifs de sécurité du musée du Louvre ont fonctionné lors du cambriolage il y a 3 jours dans la galerie d'Apollon. Des malfaiteurs ont pourtant réussi à dérober 8 joyaux en plein jour, un butin estimé à 88 millions d'euros. La directrice du Louvre, Laurence Descartes, elle aussi était auditionnée et elle confirme la version de la ministre de la Culture. Elle déclare également que ce vol était une blessure immense. L'industriel français Alstom décroche un gros contrat. Il a été choisi par la compagnie ferroviaire Eurostar pour construire 50 nouveaux trains, ce qui représente un investissement de 2 milliards d'euros. Ces nouveaux modèles remplaceront des trains plus anciens. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir, Aurore Richard.
Et ce choix d'Alstom par la compagnie ferroviaire Eurostar doit en effet permettre de répondre à une forte croissance et pour faire face aussi L'ouverture prochaine à la concurrence sur la liaison Paris-Londres.
Oui, et pour y parvenir, Eurostar, qui transporte déjà 20 millions de passagers par an, avait besoin de TGV plus capacitaire et livrable dès 2031. C'est pourquoi l'opérateur, dont les trains roulent aussi aux Pays-Bas, en Belgique ou encore en Allemagne, a choisi les rames à deux niveaux d'Alstom, qui au passage rouleront pour la première fois dans le tunnel sous la Manche, comme nous l'explique Gwendoline Cazenave, la PDG d'Eurostar.
Le marché pousse parce que les Européens veulent voyager de manière durable en train. Ils veulent traverser les frontières avec des moyens de mobilité durables. Et en deuxième point, pour les mêmes raisons, le fait que le marché est extrêmement dynamique, des trains capacitaires. Hein, et donc les rames de niveau d'Alstom, elles offrent cette possibilité d'avoir un nombre de places supérieur de 20% par rapport à nos trains actuels. Donc c'est ces deux éléments qui ont fait qu'on a choisi des trains double niveau Alstom.
Pour livrer ces trains dans les délais, Alstom, qui a déjà un carnet de commandes bien plein, va investir cette année 150 millions d'euros et recruter 1000 personnes sur ses sites français. Car en plus, d'Eurostar, le numéro 2 mondial du ferroviaire doit aussi livrer ses nouveaux TGV baptisés Avelia Horizon à la SNCF pour le réseau sud-est, notamment la ligne Paris-Lyon-Marseille, ainsi qu'au chemin de fer marocain, indique Gaku Kawabe, directeur monde des lignes de production des trains à grande vitesse chez Alstom.
Belfort pour les motrices, La Rochelle pour les voitures voyageurs, mais aussi le site de Valenciennes Petite Forêt, qui est un site Alstom, qui produit traditionnellement des métros et des RER et qui sera mobilisé pour également produire des voitures voyageurs dans le cadre de notre augmentation de capacité de trains Avelia Horizon.
Enfin, avec cette commande, Eurostar espère ouvrir de nouvelles lignes, comme entre Londres et Genève et Londres et Francfort.
Merci à Kim Kasmi. L'intelligence artificielle est-elle irréprochable quand elle traite de l'actualité? Eh bien, une étude internationale menée par la BBC et l'Union européenne de radio-télévision, à laquelle Radio France a participé, montre que les assistants d'IA d'intelligence artificielle réalisent souvent des erreurs quand il s'agit d'actualité. Près d'une réponse sur deux contient au moins une inexactitude. Antoine Deyana de l'agence Vérification de Radio France, vous avez pu consulter cette étude?
Oui, et ce qu'elle montre, c'est que les assistants d'IA les plus utilisés, ChatGPT, Copilot, Perplexity et Gemini, sont encore loin d'être fiables pour informer. Les chercheurs ont évalué plus de 3000 réponses de ces IA dans 18 pays et 14 langues, à partir de questions d'actualité réelle. Résultat, 45% contiennent au moins une erreur significative, le plus souvent liée à des sources mal citées ou inventées.
Les contenus de Radio France ne sont pas épargnés par ces erreurs, parfois très surprenante.
L'un des cas les plus frappants concerne une réponse d'IA qui cite un extrait de la chronique « Charline explose les faits sur France Inter » sans mentionner qu'il s'agit d'humour. L'IA écrit, je cite, « Selon des sources de radiofrance.fr, Elon Musk aurait fait un salut nazi. Il avait une érection du bras droit. » Fin de citation. Une phrase tirée d'une pastille satirique mais reprise au premier degré par l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas un cas isolé. Certaines IA vont jusqu'à modifier des citations issue de nos antennes. Gemini, l'assistant de Google, est celui qui présente le plus de problèmes. 93% de ses réponses liées à Radio France contiennent au moins une erreur.
Et ce rapport, Antoine, pointe d'autres problèmes.
Oui, notamment concernant les sources citées. Dans un tiers des cas, les liens sont faux, flous ou inaccessibles. Et l'étude souligne un paradoxe. Les IA parlent avec assurance, avec un ton journalistique crédible, même quand elles se trompent, ce qui renforce la confusion. L'Union européenne de radio-télévision appelle donc les concepteurs d'IA à publier leur taux d'erreur et à collaborer avec les médias publics pour fiabiliser leurs réponses.
Antoine Deyana de l'agence Vérification de Radio France. Le président ukrainien est attendu demain à un sommet des dirigeants de l'Union européenne à Bruxelles avec pour objectif pour les 27 d'arriver à se mettre d'accord sur un soutien financier pérenne à l'Ukraine. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a d'ores et déjà indiqué vouloir continuer à accroître la pression sur la Russie tout en renforçant l'Ukraine dans sa quête de paix. Volodymyr Zelensky vient lui de signer avec le premier ministre suédois une lettre d'intention pour l'achat d'avions de chasse par Kiev. Otilia Ferré.
Entre 100 et 150 avions de combat Gripen de modèle E devraient être exportés vers l'Ukraine. De quoi constituer une nouvelle armée de l'air ukrainienne puissante, a déclaré le Premier ministre suédois.
La démarche que nous entreprenons aujourd'hui crée les conditions préalables nécessaires à la conclusion d'un important contrat d'exportation portant sur les avions de combat Gripen entre nos deux pays.
Le Gripen est un chasseur moderne, polyvalent, conçu pour fonctionner sur des pistes courtes et avec une maintenance simplifiée. Et s'il intéresse le président ukrainien, c'est aussi parce qu'il est bien moins cher qu'un F-35 américain ou un Rafale français.
Pour notre armée, c'est une priorité. Le Gripen est une priorité. On sait très bien contre qui nous combattons et les Gripen sont parmi les meilleurs avions de chasse au monde.
Le modèle E, actuellement en construction, est doté d'un moteur plus puissant, d'un rayon d'action plus important et d'un radar et d'une électronique plus avancée que les versions précédentes.
Concrètement, cela signifie que nous pourrons commencer à livrer dans 3 ans. Il ne s'agit pas de livrer 150 avions d'un seul coup, mais plutôt une capacité de livraison à long terme, ce qui signifie également que les sommes très importantes en jeu ne seront pas payées en un an.
Cet achat est pour Zelensky, je cite, le début d'une nouvelle ère.
La Russie qui affirme aujourd'hui que les préparatifs en vue d'un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine se poursuivent, alors qu'un responsable américain a affirmé un peu plus tôt que le président Trump ne rencontrerait pas son homologue russe dans un avenir proche. « Je ne veux pas d'une rencontre pour rien », a justifié Donald Trump devant la presse. Le prix Sakharov pour la liberté de penser a été décerné par le Parlement européen à 2 journalistes, l'une est emprisonnée en Géorgie, Mzia Amaglobeli, l'autre est dans une prison biélorusse. Il s'agit d'Andrzej Potchobout. La Géorgie, comme la Biélorussie, deux pays sous influence russe et dans lesquels le travail des journalistes est périlleux. Et c'est en ce jour de remise du prix Sakharov qu'une délégation de journalistes de Biélorussie se trouvait à Radio France. Parmi eux, Irina Novik, qui a travaillé dans les mêmes locaux qu'Andrzej Potchobout et qui le connaît bien.
C'est vraiment super pour nous. D'abord, parce qu'Andrzej est un proche, on est de la même ville. Ensuite, c'est une bonne nouvelle pour les journalistes, parce qu'il a une telle force mentale. C'est de l'héroïsme, en fait. Et beaucoup d'entre nous connaissons la même position.
Nous avons cette
blague qui est de dire que si tu n'as pas été en prison en Biélorussie, tu n'es pas journaliste. Et Andrzej a déjà passé тellement de temps en prison. Il aurait eu la possibilité de sortir déjà s'il avait fait une demande de grâce au président ou s'il avait dit qu'il allait changer de comportement, par exemple. Mais il tient. Et pour nous, c'est un exemple qui nous montre que nous aussi, nous devons tenir et que notre travail ne reste pas invisible aux yeux du monde entier.
Des propos recueillis par Virginie Pironon. Et puis en Syrie, dans le nord-ouest du pays, les forces gouvernementales encerclent depuis cette nuit un camp de djihadistes français dont le chef est le franco-sénégalais Omar Onsem. Le président syrien s'est en effet engagé à dissoudre toutes les factions djihadistes qui ont contribué à la lutte contre Bachar al-Assad et à les intégrer dans l'armée syrienne. Mais certaines font de la résistance. Pour la première fois, Marie-Pierre Véraud, l'ancien djihadiste devenu président s'attaque frontalement à l'une d'entre elles.
Le groupe d'Omar Onsem, une cinquantaine de combattants, est retranché dans un camp dans le nord-ouest, le long de la frontière turque. Comme d'autres factions djihadistes, il refuse de se plier au nouveau pouvoir syrien, trop peu islamiste à son goût. La nuit dernière, les forces armées syriennes ont donc dépêché d'importants renforts pour encercler le camp. Des explosions ont retenti ainsi que des tirs à l'arme lourde et une partie du mur d'enceinte a été détruite. Mais l'assaut n'a pas été donné. La présence de femmes et d'enfants retient la main du pouvoir syrien. Une victime dans leur rang pourrait déclencher la colère d'autres groupes djihadistes. Des négociations ont donc été entamées pour intégrer les Français au sein de la 84e division d'armée. Elle est constituée de combattants d'Asie centrale. Les pourparlers sont menés par des combattants du parti islamique du Turkestan. Ce n'est que le début. Rien n'est dit du sort qui sera réservé aux franco-sénégalais, au Omar Onsem et à ses proches. Il entretient des relations tendue avec HTS, l'ancien groupe djihadiste du président syrien. Les armes se sont donc tues, mais la situation reste volatile et on l'imagine, elle est suivie de très près par la communauté internationale, la France bien sûr, qui a émis un mandat d'arrêt contre Omar Onsem, mais aussi les États-Unis qui pressent la Syrie de dissoudre toutes ses factions.
Les précisions de Marie-Pierre Véraud. La météo pour demain, perturbée par la tempête Benjamin. 16 départements seront placés en vigilance orange pour vents violents, de la Corse à la Somme en passant par la Charente-Maritime. Les départements de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques seront aussi concernés par une vigilance orange vague submersion, tout comme la Seine-Maritime. La Corrèze va rester demain en orange pour pluie, inondation. Dans le reste du pays, un temps pluvieux orageux. Et côté température entre 9 et 19 degrés. Vous retrouvez maintenant Quentin Lafayette.